Parade Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, nous sommes toujours en direct de la salle Olam de Gouges, 15 rue Merlin, où nous fêtons nos 40 ans d'existence de Radio Libertaire. Je vais passer tout de suite la parole. Alors, je ne sais pas si c'est Nicolas ou Jean-Manuel qui vont la prendre, mais de toute façon, je vous souhaite de bien les écouter. Ah oui, petite précision, vous entendez beaucoup de choses derrière. Il s'agit des balances qui sont en train de se faire pour le concert un petit peu plus tard.
Eh bien, c'est donc maintenant une émission sur la famille reclue. C'est une évocation de la Commune de Paris au travers de la correspondance de la famille reclue. Et quand on dit reclue, vous savez bien entendu qu'il s'agit d'Élisée, d'Élie, de Paul, de Noémie. Nicolas va nous raconter tout ça.
Bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc vous êtes bien sûr Radio Libertaire, en direct de la salle Olympe de Gouges à l'occasion du 40e anniversaire de Radio Libertaire. L'année passée, c'était, comme beaucoup s'en souviennent, le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Et dans Trou Noir, tous les lundis de 16h à 18h sur Radio Libertaire, nous avions proposé une évocation de la Commune de Paris à travers de la correspondance de la famille reclue. C'était le 17 mai. J'ai donc proposé, à l'occasion de ce week-end anniversaire, de recommencer en quelque sorte cette évocation à partir de lecture, dans une version écourtée, puisque la version originale faisait 1h30, et que là on va essayer de faire ça à peu près en 30 minutes. Et donc, au milieu du bruit et de la fureur, il m'avait semblé que cette évocation de l'intérieur, donc à partir d'une correspondance presque en direct, c'était intéressant parce que cette évocation conserve un goût de spontanéité, une fraîcheur. On va en quelque sorte en permanence de l'histoire au quotidien. Et puis aussi que cette pluralité de regards est en quelque sorte à l'image de la Commune de Paris elle-même, éminemment diverse et plurielle. Donc les reclus, comme l'a évoqué un de mes lecteurs, Jean-Manuel, c'est une fratrie importante, donc ont 14 naissances, dont 11 enfants qui vont vivre leur vie d'adulte, 5 garçons, 6 filles, on connaît certains des garçons, Élie, le frère aîné, Élisée, le plus connu, Onésime, Armand et Paul. Chez les filles, elles ont nom Loïs, Marie, Louise, Zéline, Noémie et Johanna. Les personnages qui vont être les nôtres et qui vont nous guider dans cette évocation à travers leur correspondance, ça va être tout d'abord Élie, qui est le frère aîné et que l'on connaît. Il a écrit une sorte de journal de bord de la Commune qui s'appelle « La Commune au jour le jour », un texte qui a été publié en 1908. Le plus connu de la fratrie, on l'a dit, c'est Élisée, géographe et anarchiste, d'après sa correspondance qui a été publiée. Le plus jeune des frères, c'est Paul. Il est à cette époque ambulancier et il sera plus tard médecin. Là, c'est aussi une correspondance familiale. Et puis, nous aurons des lettres de Noémie, la femme d'Élie, et de Fanny Lherminez, la seconde compagne d'Élisée. Maintenant que nous avons les personnages, il nous faut des lecteurs. Donc, nous allons avoir, en commençant par ma gauche, pourquoi pas, Jean-Manuel, qui sera Élisée reclus. Ensuite, nous aurons Christiane qui lira les lettres donc de Noémie et de Fanny Lherminez. Et puis Jehan qui lira Élie reclus et Michel qui lira Paul reclus. Alors le cadre de cette évocation, ce sont donc des correspondances qui vont en gros de l'été 1870 au début de l'année 1872. Et puis on conclura avec quelques textes écrits par Élisée Reclus en 1897, où il s'exprime pour la première fois sur la Commune. Dans l'évocation que je faisais, J'ai commencé l'introduction par en fait relier la Commune de Paris 1871 avec les mouvements révolutionnaires de 1848, puisqu'il me semble que on peut bien comprendre la Commune de Paris qu'en comprenant un peu comment s'est passée la révolution de 1848. Je ne reprendrai pas cette introduction, mais simplement pour rappeler qu'il y a seulement 23 ans qui séparent ces deux événements, ce qui est assez peu, et qu'en fait, la plupart des acteurs de la Commune de Paris auront soit cette révolution en mémoire, soit y auront participé. L'exécrable Adolphe Thiers, bien connu, a été plusieurs fois président du Conseil sous Louis-Philippe. Il n'est pas aux affaires en 1848, mais il regrettera tout à fait que le ménage n'ait pas été assez bien fait, ce qu'il s'exercera à faire un peu plus tard. Pour rappel, les journées de juin 1948, c'est quand même 5 à 6 000 victimes. Et puis, Élie, nos personnages, Élie a 20 ans en 48, son frère Élisée en a 18, le même âge, par exemple, que Louise Michel, qui est née la même année que lui. Nous sommes donc en 1870. L'Empire est en butte à des contestations de plus en plus nombreuses. Et comme souvent dans ces cas-là, les dictateurs peuvent être tentés par une aventure militaire. C'est donc ce qui va se passer. Et c'est ainsi que, sous des prétextes assez futiles, la France déclare la guerre à la Prusse le 18 juillet 1870. Cette aventure guerrière va se révéler absolument désastreuse. Donc c'est une déroute. Et c'est là que nous retrouvons notre premier correspondant, donc, qui est Paul Reclus. Paul Reclus, comme je l'ai dit, le plus jeune des frères Reclus. Et il va devenir un médecin assez réputé. À cette époque, il est en train de faire ses études. Et il s'est engagé volontairement dans une ambulance. C'est l'ambulance de la presse française, organisée par le comité des journaux parisiens. Et donc, il va avoir cette activité pendant la durée de la guerre. Donc, il participe aux batailles de Bazeille et de Sedan. Autre membre de la famille qui va être impliqué dans cette guerre, dans ces événements, une des sœurs Reclus, Marie, est à Strasbourg où elle s'est engagée comme infirmière. Donc, nous retrouvons Paul Reclus à Mouzon, un des sites de bataille, le 31 août 1870. Paul Reclus, et c'est donc Michel qui lit son texte.
J'ai donc vu les ignominies d'un combat et les horreurs d'un champ de bataille. Je reviens de courir les plaines et les bois, soulevant un cadavre pour trouver au-dessous un blessé râlant encore. Et j'en reviens navré. On n'a plus le goût de vivre lorsqu'on a senti tant de tristesse, assister à si hideux spectacle, sonder de si terribles blessures faites et reçues, on ne sait pour quelle cause. Nous étions à Mouzon. Là se trouvait le quartier général, là MacMahon, l'empereur et le gros de l'armée. Les Prussiens poursuivent le corps en défaite et se rencontrent avec les Français dans la plaine. À gauche de la Meuse, nous tenions les hauteurs de la rive droite, non celle de la gauche où, par malheur, se trouvaient quelques régiments français. L'artillerie donne, massacrant partout et balayant d'une même volée amis et ennemis, Prussiens et Français. Le centre de l'attaque est le pont que défend une seule mitrailleuse. On voudrait la faire sauter, mais les poudres sont immergées. La canonnade est épouvantable, le bruit sec et multiplié des fusils, le sifflement des obus qui parcourent leur trajectoire et éclatent avec un bruit formidable, les mitrailleuses dont la voix tient d'un long braiement, quelque chose comme de durs cailloux réduits en poussière par des puissantes meules, les cris, les hurlements des soldats, de courts silences rompus par des bruits plus éclatants que jamais. Le soleil, voilé par les fumées des décharges, n'éclairait plus que sinistrement et recouvrait chaque chose d'une teinte cuivrée, zébrée çà et là par les éclairs des obus. C'est la déroute. Arrive MacMahon. Arrive l'empereur affaissé sur son cheval. Le maréchal rallie les soldats qui vont de nouveau se faire tuer sur le pont. C'était horrible. Les ténèbres étaient tout à fait venues et ne paraissaient que plus noires grâce aux incendies de deux quartiers du village. Tout paraissait fini, notre besogne à nous allait commencer. Ce que nous avons coupé, taillé, ce que nous avons extrait de balles, sondé de blessures, recousu de lambeaux, serait difficile à compter. Chacun faisait sa petite affaire et le silence n'était rompu que par les murmures, les cris, les plaintes ou les hurlements des malades. J'étais exténué. Je trouvais un morceau de pain dans ma poche. Il était rouge de sang. Je l'ai dévoré. Le matin est arrivé. L'armée française avait disparu. C'était une matinée de vendange. Un épais brouillard flottait dans les prairies, mais on sentait que le soleil de 10 heures allait le dissiper. Nous étions chargés d'explorer la plaine, c'est-à-dire la partie où les soldats étaient en moins grand nombre. En sortant du village, une dizaine de morts entassés dans l'espace de quelques mètres, les uns sur le côté, les autres renversés en arrière. Ils étaient là, vous regardant de leur regard de mort, contournés bizarrement, mais aucun ne dormant. Donnez de mes nouvelles à Orthez, Sainte-Foy, Vascoeuil. Votre frère à tous, Paul.
Donc cette correspondance, si elle est bien envoyée à quelqu'un, est réellement une correspondance familiale, puisqu'en fait la pratique veut qu'en général on demande à celui qui reçoit la correspondance de la réexpédier, de la faire circuler ou de la réécrire. Donc c'est une correspondance qui circule. Donc la guerre est perdue, l'empereur est prisonnier, et le 4 septembre, la République est proclamée. Mais quelle République ? Le 17 septembre, c'est le début du siège de Paris par les troupes prussiennes. Avec son frère Élie, Élisée s'est enrôlé comme soldat dans le 119e bataillon de la garde mobile parisienne. Et puis Élisée intègre bientôt la compagnie des aérostiers militaires dirigée par Nadar. C'est le début d'une amitié qui ne se démentira pas. Durant le siège, Élisée donne une série de conférences de géographie à la mairie du 3e arrondissement, devant des enseignants notamment. Automne-hiver 1870, Onésime et Paul Reclus s'engagent dans un corps de francs-tireurs béarnais. Et donc Paul y fait le coup de feu en Bourgogne jusqu'à l'armistice. De Strasbourg, Marie Reclus, qui était infirmière, revient à Nîmes où elle continue cette activité. Loïs Reclus, une des autres sœurs, est également infirmière à Bordeaux. Louise Reclus et Alfred Duménil, son mari, presque mari à l'époque, ont dû quitter Vaccueil près de Rouen, occupé par les Prussiens, et se sont repliés au Havre. Janvier 1871, c'est l'armistice, une capitulation qui sera très mal vécue par les Parisiens. Février 1871, donc la République a été proclamée quelques mois plus tôt, et évidemment la République doit se doter de représentants. Il y aura donc des élections. Le 13 février, une assemblée nationale est élue qui est majoritairement monarchiste. Elle se réunit à Bordeaux, d'où le surnom d'assemblée provinciale qu'on lui donnera parfois. Et c'est donc le magnifique Adolphe Thiers qui est élu chef du gouvernement le 16 février. Et donc la déception est grande, chez les Reclus en tout cas, et nombre de Parisiens, puisqu'on est loin de la République sociale et universelle qui était souhaitée, même si ce résultat n'est qu'une demi-surprise. Et donc, en février 1871, Élisée écrit à Nadar.
« Je ne vous avais pas écrit tant qu'il y avait encore un reste d'espoir. Maintenant que nous sommes tombés au fond du bourbier de la honte, je me décide enfin. » Puisque tout est perdu, recommençons la vie à nouveau frais. Faisons comme si, en sortant d'un sommeil de 100 000 ans, nous apercevions que tout est à conquérir, patrie, liberté, dignité, honneur. Après notre immense repos, nous nous mettrions résolument à l'ouvrage. Eh bien, travaillons, oublions les fatigues et surtout les dégoûts, bien pire que les fatigues. Qu'allez-vous faire ? Un mot, je vous prie, si vous prenez une décision. Quant à moi, si l'exil ou la misère ne me force à quitter la France, je resterai. C'est ici qu'est mon champ de bataille.
C'est à nouveau Élisée qui écrit à Nadar, mais nous sommes en mars 1871.
Je ne vous parle pas, cher ami, de la révolution qui s'accomplit. Il me semble que le 18 mars est la plus grande date de l'histoire de France depuis le 10 août. C'est à la fois le triomphe de la République des travailleurs et l'inauguration de la Fédération communale. Les progrès intellectuels et moraux avaient été immenses, puisqu'un changement de cette portée a pu s'opérer presque pacifiquement.
Donc on le sait, c'est le 18 mars, c'est du 18 mars que date le début de l'insurrection parisienne, le début de la Commune de Paris. En effet, les Parisiens refusent de se laisser désarmer, on connaît l'épisode des canons de Montmartre. C'est donc le début de l'insurrection. Élie Reclus, donc c'est le frère aîné. Il est à cette époque correspondant en France de nombreux journaux étrangers, notamment russes et américains. Il s'intéresse tout particulièrement à l'histoire des religions, aux mythes et aux traditions populaires. Il va passer toute la période à Paris en compagnie de sa femme, Noémie, et il occupe différentes fonctions, dont celle, à partir de la fin avril, de directeur de la Bibliothèque de France. Tous les extraits présentés ici viennent d'un texte qui s'appelle « La commune au jour le jour », dans lequel il fait la chronique de ce printemps 1871. Nous le retrouvons donc à Paris, donc le 20 mars 1871.
Préparé de longue date par M. Thiers et ses complices, le coup d'État qu'on sentait confusément avancer dans l'ombre a enfin éclaté et avorté.
Élie reproduit ensuite une série de télégrammes trouvés dans les ministères abandonnés par les Versaillais, télégrammes qui montrent le plan mis en place par Thiers et ses ministres pour reprendre rapidement Paris. Le 22 mars, une grande confusion à Paris et des affrontements opposent à l'intérieur même de Paris des amis de l'ordre pour défendre la société menacée à la garde nationale. Affrontements qui se soldent par 30 morts du côté de l'ordre et une dizaine du côté de la garde nationale. Le 22 mars, c'est Élie qui commente.
La rumeur publique répand bientôt la nouvelle dans Paris. On s'attend à des récriminations passionnées, à des revanches peut-être sanglantes. La nuit, je parcours les boulevards en proie à une fiévreuse anxiété, foule partout. On se racontait les événements du jour, on en interprétait la signification. Les discussions avaient lieu avec un calme, avec une courtoisie, un bon sens vraiment extraordinaire. Le ton dominant des conversations est d'une gravité triste. Plusieurs femmes avec leurs enfants, sont mêlés à ces groupes épais, elles prennent quelquefois la parole.
Donc, comme on le voit, la confusion est extrême. Et les Parisiens choisissent d'organiser des élections pour élire leurs représentants et asseoir la légitimité de ceux-ci face aux autres élus, mairies d'arrondissement ou députés. C'est Élie qui commande le 27 mars 1871.
Nous avons eu nos élections. Nous les avons eues. Le comité central, sorti du hasard, cède la place à la Commune de Paris. Depuis toujours attendu à la Commune, régulièrement élu à la Commune, ayant origine et par conséquent autorité légale, 250 000 électeurs viennent de se prononcer contre le coup d'État monarchique. La proclamation des résultats du vote a donné lieu à une fête émouvante. Vers la place de l'Hôtel de Ville se dirigeaient bataillon après bataillon, joyeux, allègre, au bruit du tambour, au son des clairons, une mer montante de peuple. Les drapeaux des bataillons et les faillons des compagnies qui flottent au vent, la forêt des baïonnettes qui resplendissent au soleil, la grande voix de bronze, la fierté d'un peuple qui triomphe. Enfin, depuis tant d'années, tout cela éclate en même temps, dans des applaudissements retentissants. Vive la Commune ! Vive la République universelle !
Nous sommes maintenant le 3 avril 1871 et des troupes versaillaises composées de bataillons chouans, vendéens et bretons, on peut imaginer qu'ils sont assez hostiles à la République, mitraillent et bombardent Neuilly. Et donc les Parisiens vont choisir de répondre à cette agression en marchant sur Versailles. C'est Élie qui nous raconte.
Trois colonnes d'expédition sont parties pour Versailles, nous dit-on. Une par la rive gauche, Clamart, Meudon. Les deux autres doivent aller par Rouen, Bougival, Garches, chacune contournant le mont Valérien de son côté. Nos gardes nationaux sont novices. Les 4/5 n'ont jamais vu le feu. Je commence à croire que nos gens ont eu grand tort de faire leur coup de tête en répondant par une attaque improvisée à une attaque mûrement réfléchie.
4 avril, toujours Élie.
Hélas, bonne nouvelle, fausse nouvelle. Hier, la cohue Bergeret a échoué contournant le mont Valérien et la cohue Florence a échoué de l'autre côté. Florence a même été tuée et si les deux autres avant-gardes ont fait leur jonction, c'est chez les morts. C'est pour reprendre la redoute de Châtillon qu'a été mandé ce matin le bataillon auquel appartiennent mes frères. Je puis témoigner, hélas, qu'il était démuni de tout. Avait emporté des munitions, celui qui par hasard en possédait chez soi. On avait pensé naturellement que les munitions seraient réparties en même temps que les ordres du général, mais quel général ?
À 2 heures de la nuit, un ordre du général fait quitter à notre troupe,
déjà bien diminué par la désertion, l'abri précaire de la place Vendôme. Et l'on nous mène, place de la Concorde, où nous essayons de dormir sur des dalles jusqu'à 6 heures du matin. C'est alors qu'on nous dirige vers Châtillon, les eaux rompues par ce premier bivouac et sans nourriture aucune. Pendant la marche, notre petite bande se fond encore et, partie 600 la veille, nous arrivons 50 sur le plateau. Une demi-heure avant que les troupes versaillaises, feignant de passer en armes à la cause de la Révolution, se fassent aider à l'escalade des remparts aux cris répétés de « Nous sommes frères, embrassons-nous, vive la République !» Nous étions prisonniers. Et tous ceux que l'on reconnaissait à leur uniforme ou à leur allure, comme ayant été soldats, tombèrent fusillés près de la clôture d'un château voisin.
Donc c'est ainsi qu'Élisée Reclus a été prisonnier. Et donc les Parisiens resteront plusieurs jours sans nouvelles avant d'apprendre que leur frère fait partie des prisonniers transférés à Versailles. De son côté, Paul, qui était dans le même bataillon, avait pu rejoindre Paris. Et c'est Élie qui fait le récit de l'accueil réservé aux fédérés par la population versaillaise.
On faisait défiler par les rues de la capitale rurale, paradées devant le beau monde des promenades, ces malheureux, leurs vêtements déchirés dans la lutte, épuisés par l'insomnie, harassés par une longue marche au grand soleil, par la fatigue de plusieurs jours, par la douleur, accueillis par l'insulte. Parmi eux, il en était de blessés, de sanglants. Ces hommes avaient les mains liées, et les gondins qui, la veille, n'eussent point osé les affronter, leur crachaient maintenant contre la bouche et les yeux, et les belles dames, avec leurs ombrelles, tapaient dans ces figures baignées d'une sueur d'angoisse, un vieillard à cheveux blancs, on est infâme à tout âge, déchargeait des coups de canne sur leur tête nue, et on lui criait « Bravo !»
Dans un des appendices de son Histoire de la Commune de 1871, Prosper Lissagaray publie le récit fait par Élisée Reclus de son odyssée de prisonnier. Dans cet extrait, Élisée Reclus raconte son transfert depuis la prison de Satory, donc près de Versailles, jusqu'à Brest, où il sera détenu plus longtemps. Élisée, donc.
Premièrement, vous connaissez Satory. Le manque d'air et de sommeil m'y ont rendu fou pendant 8 heures. Passons. Deuxièmement, vous avez sans doute aussi entendu parler des wagons à bestiaux dans lesquels nous avons été transportés à Brest. Nous étions 40 empilés dans le wagon, jetés les uns sur les autres. C'était un fouillis de bras, de têtes et de jambes. Les bâches étaient soigneusement fermées autour de la cargaison de chair humaine. Nous ne respirions que par les fentes et les interstices du bois. On avait jeté, dans un coin, un tas de biscuits en miettes. Mais jeté nous-mêmes sur ce tas, sans savoir ce que c'était, nous l'avions bientôt écrasé, réduit en poussière. Pendant 24 heures, pas d'autres vivres, pas de boisson. À l'Orient seulement, on nous donna un morceau de pain de la grosseur du poing. Mais de tout le voyage, pendant 31 heures, nul de nous ne put descendre et respirer. Les excréments des malades se mêlèrent à la boue de nos biscuits. La folie s'empara de plusieurs d'entre nous. On se battait pour avoir un peu d'air, un peu de place. Plusieurs d'entre nous, hallucinés, furieux, étaient autant de bêtes fauves.
Tout en s'inquiétant du sort de son frère, Élie, qui lui est toujours à Paris, continue de noter les décrets promulgués par la Commune.
Décret du 2 avril 1871. Le maximum du traitement des employés des services municipaux est fixé à 6 000 francs par an. L'Église est séparée de l'État. Le budget des cultes est supprimé. Les biens de main morte appartenant aux congrégations religieuses sont déclarés propriété nationale. C'est par ces deux décrets que la Commune a répondu le 2 avril au coup de canon que tirait contre elle l'Assemblée provinciale. J'ai tressailli de joie en les lisant, d'une joie solennelle, tant préparée, tant espérée, tant attendue, cette séparation de l'Église et de l'État que vient de prononcer Paris est un des actes décisifs qu'il faut avoir commis en pleine connaissance de cause. car ce sont ces actes-là qui font vivre ou mourir.
Donc pendant ce temps, Fanny Lherminez, la compagne d'Élisée, la deuxième compagne d'Élisée, et les filles d'Élisée sont revenues à Paris dans le courant du mois d'avril. De son côté, Noémie, la femme d'Élie, a été nommée en compagnie d'André Léo, membre d'une commission de 5 femmes chargée d'organiser et de surveiller l'enseignement dans les écoles de filles. Dans la lettre qui suit, c'est Noémie qui écrit à ses cousins restés à Sainte-Foy pour donner des nouvelles. Nous sommes donc à Paris le lundi 17 avril et c'est Noémie qui parle.
Mes bien chers, je voudrais vous donner des nouvelles, mais je n'en ai pas. Nous sommes dans une attente et une incertitude cruelle. De mon frère, nous ne savons rien. Fanny et moi allons demain à Versailles demander l'autorisation de le voir. Les généraux de l'Empire continuent à ne pas être victorieux. Je ne sais trop quel bulletin de victoire nous arrive. Toujours est-il qu'après tant de combats, soi-disant heureux, le petit Thiers et son état-major devraient occuper militairement l'hôtel de ville. Mais il n'en est rien. Le drapeau rouge flotte partout dans Paris. Et certes, par un beau soleil, il est autrement plus beau que les trois couleurs. Le Mont Valérien, qui n'appartenait pas à la commune, ne cesse de bombarder l'avenue de Neuilly, la porte Maillot et l'avenue de l'Arc. Les groupes de la paix et de la guerre ont été endommagés par les obus versaillais. Ici, nous nous occupons bientôt toujours de la bienfaisance, de l'organisation des écoles, mais l'argent manque pour faire quelque chose de bien. Les enfants travaillent régulièrement. Paul va tous les matins faire 1 heure de gymnastique chez un maître du voisinage. Puis il fait ses leçons avec beaucoup d'entrain. Fanny nous enseigne l'anglais.
Louise Reclus, donc une des autres sœurs d'Élisée, enfin une des sœurs d'Élisée, parvient à se rendre à Brest, où elle séjourne quelque temps et où elle réussit à rendre visite à son frère emprisonné. De son côté, je l'avais déjà dit, depuis le 29 avril, Élie a été nommé directeur de la Bibliothèque nationale sur un décret d'Édouard Vaillant. Nous sommes le samedi 20 février et c'est Élie qui parle.
On va, on vient, on va qu'aux affaires courantes, on consulte des répertoires, on inscrit en des registres. Un peu plus loin, des camarades sont au feu, des amis reçoivent des coups de fusil. Avant hier, les fédérés étaient envahis au couvent des oiseaux par des forces versaillaises bien supérieures. Ils n'ont pas voulu céder, ils ont péri presque jusqu'au dernier. Et dans le dortoir où reposait naguère l'aristocratie des filles de France, sous l'aile des mères jésuitesses, on a du sang jusqu'aux chevilles. Le soir, après les fatigues de la journée, on se promène sur le balcon, respirant l'air frais, regardant les étoiles. Et de temps à autre, le ciel frémit de palpitations de lumière. Ce sont les éclairs des batteries qui parlent et se répondent de Versailles à Paris.
Nous sommes donc au début de cette semaine sanglante, et le 22 mai 1871, toujours Élie.
Avec un ami, nous explorons le quartier, nous descendons par la rue des Saints-Pères, nous poussons dans ce quartier des rues de l'Université, de Lille, de Varennes. Nous sommes arrêtés par des barricades, des gardes nationaux. On ne passe pas, nous repoussons chemin. À quelques angles de la rue, on ébauche des simulacres de barricades, mais les hommes qui y travaillent ont des figures inquiètes, sombres et soucieuses. Il n'est pas difficile de discerner, par contre, la jubilation intérieure de tous ces concierges, boutiquiers, marchands d'articles de sainteté, dévots et dévotes qui composent le fond de cette population. Leur œil vous marchardait. Déjà pour vous dénoncer aux futurs gendarmes et aux premiers policiers, ils ricanent de la consternation du prochain. Un sarcasme haineux et triomphant perçait sur leur air contrit et sous le masque d'humilité béate et confortable.
Alors que les troupes versaillaises poursuivent leur progression dans Paris, c'est Fanny, la compagne d'Élisée, qui écrit à Louise le 23 mai 1871.
Bien chère sœur, ici, il n'y a eu que des vitres brisées. Nous allons tous et toutes très bien. Je ne puis t'écrire longuement, j'ai le cœur si triste, si gros, la tête vide. Les scènes que j'ai vues étaient hideuses, écœurantes, je n'en reviens pas. Je ne puis y croire. Il me semble être plongé dans un rêve affreux. Le 22, nous sommes allés prendre refuge dans une pension, maman étant restée chez nous. Pendant 5 jours, nous avons vécu entre 2 feux. Une partie du pensionnat, je veux dire de la maison, a été écrasée. Nous étions alors dans la cave. où nous sommes restés durant 2 jours et 2 nuits. Les soldats y sont descendus, la baïonnette en avant, croyant que nous étions des insurgés. Enfin, nous allons bien. Depuis samedi, je suis de retour avec maman et les filles. Il m'est difficile d'écrire. Pardon, chers frères et chères sœurs. Les filles sont bien portantes et nullement n'ont été émues de tout ce vacarme. Presque partout, il y a des traces plus ou moins hideuses de ce conflit. Quelle triste planète que cette Terre.
De son côté, Élie poursuit sa chronique des derniers instants de la commune et nous sommes le dimanche 28 mai.
On nous raconte que de la place du château d'eau à la Bastille, le massacre a été effroyable. Après avoir pris la caserne, les soldats jetaient par les fenêtres les gardes nationaux, morts ou mourants. Les mairies sont encombrées de cadavres, ils gisent par toutes les rues, l'air en est empuanté. Le soir, cerné, attaqué de tous les côtés, le cimetière du Père-Lachaise a été envahi par les troupes rurales. Les derniers défenseurs de la commune ont été massacrés. Probablement, une période historique vient de clore. Une nouvelle commence, c'en est fini pour notre génération, destinée sans doute à être spectatrice impuissante, la victime lamentable d'une réaction niaise et furieuse.
Pendant les semaines qui suivent ces journées sanglantes, Élie et Noémie sont accueillis et cachés chez différents amis. Et en août, Élie, muni d'un faux passeport, gagne la Suisse, bientôt rejoint par femme et enfants. Il s'installe à Zurich pour plusieurs années. Depuis les premiers jours d'avril, Élie est reclus, on l'a dit, est retenu au fort de Kellern, en rade de Brest. La correspondance reprend peu à peu. Et comme je le disais, les nouvelles reçues sont expédiées chez les différents membres de la famille. À la fin du mois de juillet, Élisée Reclus est transféré à l'infirmerie de l'île de Trébeuron. Et donc, le 28 juillet, il écrit à sa compagne Fanny.
Matériellement, je suis beaucoup mieux dans cette maison que je ne l'étais dans la forteresse de Kellern. La nourriture y est vraiment meilleure. Je serai couché proprement, j'aurai de l'air pur. Et de l'air pur en abondance. Bien plus, j'aurai à moi tout seul la moitié d'un étroit cabinet percé de 2 fenêtres. Ce n'est pas tout. De chacune de ces 2 fenêtres, je puis contempler la grande nature, la mer avec ses grèves, les vagues, les brisants, et j'entends le bruit continuel de ses flots. Cependant, j'ai quitté ma casemate humide de Kellern avec beaucoup de regrets, car j'y laisse d'excellents amis que mon départ attriste. Non seulement je dois abandonner mes cours d'anglais, d'espagnol, de géographie, mais il me faut aussi me priver de cette bonne éducation mutuelle que nous donnent nos conversations. Les amis que je regrette surtout sont mon professeur de hollandais, le docteur Cormel, et un ouvrier parisien un peu braillard, mais d'une admirable tendresse de cœur. Il irait avec moi au bout du monde. Je serais fort heureux de serrer sa main loyale lorsque viendra le jour du revoir.
Fin octobre, novembre 1871, en vue de son jugement, Élisée Reclus est transféré à la prison des Chantiers à Versailles, puis à Saint-Germain-en-Laye. Le 15 novembre, un conseil de guerre condamne Élisée à la déportation simple, sans emprisonnement, comme nous dit Michel, lui aussi en Nouvelle-Calédonie. Le 15 novembre 1871, Élie écrit à son frère Élisée.
2 mots, et pas davantage. 2 mots de Fanny m'apprennent que tu es condamné à la prison. Tout considéré, il vaut mieux pour notre cause que tu aies été condamné. Ton acquittement eut dans notre esprit fait involontairement absoudre bien des massacres. Et cela n'eût pas été juste. Que toi, tu aies défendu la République et la Commune, et que ces Saint-Cyriens et Figarotiers te déportent, cela suffit pour ceux qui te connaissent et les connaissent. Tu fais sans doute de la gymnastique entre tes 4 murs, tâche de manger davantage pour en faire davantage. Veille sur ta circulation nerveuse, que ton esprit sain maintienne ton corps en santé. Va, mon bon Élisée, nous nous reverrons, nous nous retrouverons.
Donc, petite parenthèse, puisqu'on est en direct sur Radio Libertaire à l'occasion de la fête des 40 ans de Radio Libertaire. Nous sommes à la salle Olympe de Gouges Et le programme de la salle Olympe de Gouges se poursuit par la projection, donc qui va commencer maintenant à 14h30, de la troisième partie du film « Une histoire de l'anarchie » de Tancrède Ramonet. Donc ceux qui sont présents dans la salle, si vous voulez aller voir le film, ça va commencer. Et pour que nos auditeurs ne soient pas malheureux, nous allons poursuivre jusqu'au bout. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez assister à la projection... Je reprends. Et donc, nous étions fin novembre 1871, et on sait qu'à la suite d'une intense mobilisation de savants britanniques et de personnalités françaises, la maison Hachette notamment, le gouvernement décide en juillet 1872 de commuer la peine d'Élysée en 10 ans de bannissement. Et nous sommes donc le 14 mars 1872, et Élysée parvient à la frontière suisse en fourgon cellulaire. Le 15 mars 1872, il écrit à ses parents.
« Mes bien chers parents, depuis hier, je suis libre sur une terre libre. Je viens de passer une année vraiment dure et qui m'épouvante un peu quand je me rappelle tout ce que j'ai dû subir. La faim, le froid, le manque d'air respirable, les coups, les insultes, les grossièretés de toute espèce, le spectacle de mots inouïs, les douleurs morales et les souffrances physiques. Maintenant, tout est passé pour moi comme un mauvais rêve, mais cet affreux cauchemar dure encore pour nombre de mes amis. Il en est beaucoup qui valaient mieux que moi et qui, moins heureux, mourront probablement à la peine. Le souvenir de ces amis prisonniers me poursuit toujours et m'empêche de jouir de ma propre liberté. »
Élisée Reclus ne s'exprimera pas sur la Commune de Paris avant le 15 mars 1897, où il répond en fait à un questionnaire envoyé par la Revue Blanche. Donc c'est une revue qu'on sait avoir été tout à fait ouverte aux idées anarchistes, hein, puisqu'il écrivait entre autres Félix Fénéon, Octave Mirbeau, Émile Pouget, Zodaxa. Et ce questionnaire, qui est très intéressant, a été envoyé à beaucoup de nombre de personnalités. Les questions étaient les suivantes. Quel a été votre rôle du 18 mars à la fin de mai 1871? Quelle est votre opinion sur le mouvement insurrectionnel de la Commune? Et que pensez-vous notamment de son organisation parlementaire, militaire, financière et administrative? Quel a pu être à votre avis, l'influence de la Commune, alors et depuis, sur les événements et les idées? Et donc, parmi les répondants, on trouve Élisée Reclus, on l'a dit, mais aussi Louise Michel, Sébastien Faure, Gustave Lefrançais, Édouard Vaillant, Jean-Baptiste Clément et bien d'autres. Et on est surpris en lisant ce texte de voir à quel point il est souvent très critique. Quand Élisée s'exprime à ce moment-là, on sait qu'en 1897, le mouvement anarchiste est bien réel. Et Élisée Reclus est de ceux qui en écrivent les premiers textes théoriques. Dans ces quelques lignes, sans appel pour les dirigeants, il met en avant l'immense espérance soulevée par cette première esquisse d'une humanité formée de compagnons libres et égaux. C'est Élisée qui parle.
Mon rôle, pendant la Commune, a été nul officiellement. Je me suis trouvé dans la foule anonyme des combattants et des vaincus. Simple garde national dans les premiers jours de la lutte, puis à partir du 5 avril, et pendant un an, détenu dans les diverses prisons de Satory, Trébron, Brest, Saint-Germain, Versailles, Paris, je n'ai pu me faire une opinion sur la Commune que par oui-dire et par l'étude postérieure des documents et des hommes. Dans les premières années qui suivirent la Commune, il me semblait que tous ceux qui avaient pris part au mouvement étaient solidaires par le fait de la répression et des outrages subis en commun. Je ne me fusse alors pas permis de porter un jugement sur les hommes qui, à mon avis, avaient été peu dignes de la cause défendue par eux. Mais le temps est venu de dire la vérité, puisque l'histoire impartiale commence à se faire et qu'il s'agit de recueillir des renseignements en vue des événements futurs. Je puis donc affirmer que pendant les premiers jours de la Commune, l'organisation militaire fut aussi grotesque, aussi nulle qu'elle l'avait été pendant le premier siège, sous la direction du lamentable Trochu. Les proclamations étaient aussi en poulet, le désordre aussi grand, les actes aussi ridicules.
Reclus donne ensuite l'exemple de l'opération de Châtillon à laquelle il a pris part et à la suite de laquelle il a été fait prisonnier. Ensuite, il reprend.
D'après ce que mes compagnons m'ont raconté, j'ai lieu de croire qu'en d'autres faits de guerre, nos chefs empanachés, au moins ceux qui commandèrent les premières sorties, firent preuve de la même intelligence et de la même incurie. Peut-être le gouvernement de la commune eut-il plus de capacité en d'autres matières. En tout cas, l'histoire dira que ces ministres improvisés restèrent honnêtes en exerçant le pouvoir. Mais nous leur demandions autre chose, d'avoir le bon sens et la volonté que comportait la situation et d'agir en conséquence. Le vertige du pouvoir et l'esprit de niaise routine les avaient saisis. Ils ne comprirent rien au mouvement révolutionnaire qui les avait portés à l'hôtel de ville. Mais ce que ne firent pas les chefs, la foule sans nom sut le faire. Ils furent nombreux, 30 000, 40 000 peut-être, ceux qui moururent autour de Paris pour la cause qu'ils aimaient. Ils furent nombreux aussi ceux qui, dans l'intérieur de la ville, tombèrent sous les décharges des mitrailleuses en criant « Vive la Commune !» La Commune adressée pour l'avenir, non pas par ses gouvernants, mais par ses défenseurs, un idéal bien supérieur à celui de toutes les révolutions qui l'avaient précédée. Elle engage d'avance ceux qui veulent la continuer, en France et dans le monde entier, à lutter pour une société nouvelle dans laquelle il n'y aura ni maître par la naissance, le titre ou l'argent, ni asservi par l'origine, la caste ou le salaire. Partout, le mot « commune » a été compris dans le sens le plus large, comme se rapportant à une humanité nouvelle, formée de compagnons libres, égaux, ignorant l'existence des frontières anciennes et s'entraidant en paix d'un bout du monde à l'autre.
Voilà, donc c'est la fin de cette évocation. Merci de l'avoir écouté, merci d'être resté avec nous. Et puis je tenais tout particulièrement à remercier les lecteurs, donc Christiane, Michel, Jehan et Jean-Manuel Nestor, tous animateurs de Radio Libertaire. Et pour conclure, je vais vous proposer aux auditeurs d'entendre une chanson que nous avons fait enregistrer à l'occasion du film que j'ai consacré à Élisée Reclus et qui est chantée par Natacha Fiakowski, mise en musique par Olivier Cahour. C'est une chanson anonyme, mais qui est une authentique chanson de la commune.
J'attends devant ma porte mon fils et mon mari. Ma maison semble morte et mort aussi Paris. Depuis l'autre semaine, ils sont partis d'ici, du côté de la Seine, en prenant leur fusil. C'était pour la bataille du vrai peuple ouvrier contre ceux de Versailles venus les mitrailler. Mais la poudre et les balles me faisaient moins trembler que le bruit des rafales dans Paris fusillé. Thank you.